Le long format et les bords. Jean-Yves Leloup, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue chez Radio et les Bords, vous êtes à Chambéry en ce moment dans le cadre du festival Modulation, le festival dédié vraiment aux musiques électroniques. Et vous êtes là parce que Marc Chalosse vous a invité à venir donner une conférence autour d'un livre que vous avez sorti en 2012-2013 chez Le Mot et le Reste, qui s'appelle Digital Magma. C'est quoi qui vous plaît autant dans les musiques électroniques, justement? Puisque vous en faites aussi, avec Radio Mental notamment.
Oui. Mais moi, je m'intéresse au son et à la musique en général. Donc, je suis aussi fasciné par le chant des oiseaux ou le son. Enregistrer du son en montagne savoyarde, ça me fascine aussi. Donc, j'ai les oreilles quand même assez curieuses et ouvertes de toute manière. Mais pour revenir à l'électronique, bah, je sais pas, il faut sans doute revenir à mon enfance, à cette musique donc synthétique qui. Et à partir de l'électricité, de la variation de courant électrique, et qui devait peut-être incarner une forme d'innovation, de futur. C'est en 2000 peut-être, je n'ai pas de souvenir d'être fasciné par l'an 2000, mais je fais partie d'une génération qui a grandi en partie avec la science-fiction, qui est certes toujours présente aujourd'hui, mais beaucoup de musiciens techno sont un peu des enfants du premier Star Wars, celui de 77-78, hein, ils décrivent souvent la fascination pour Star Wars, mais aussi pour la science-fiction de l'époque. Bah, c'est la musique du futur, peut-être. La musique de Kraftwerk ou Jean-Michel Jarre, que j'écoutais déjà préadolescent, d'Art of Noise. J'écoutais aussi la chanson, la variété, ou du rock. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des groupes, des musiciens comme ça, électroniques, qui m'ont toujours porté. Et je pense que c'est cet aspect de... Le son synthétique possède quelque chose de fascinant, à la fois pour son côté presque informe. Enfin, la musique, c'est informe en soi, mais il y a une texture, il y a un timbre qui paraît, qui est inouï au sens propre du terme, en quelque sorte. La première fois que c'est sorti d'une machine, il y a un aspect à la fois novateur, pur. Donc, il doit y avoir une forme de fascination comme ça pour ces types de sons-là, en quelque sorte, et pour la modernité qu'a toujours incarné la musique électronique. Je parle que c'était la musique du futur, mais enfin bon, pour beaucoup de jeunes gens de l'époque, c'était leur musique d'aujourd'hui. Hein. Quand on écoute les premiers collages de sampling, c'était fascinant. Cette manière de faire rentrer la société médiatique, les sons des médias, les sons de la rue, les sons de la nature dans de la musique, ça avait quelque chose de totalement fascinant. Ça doit être cette incarnation de la modernité, plus que du futur.
C'est quoi pour vous le sample le plus magique, le plus ouf du monde entier qui est déjà passé dans vos oreilles?
Un sample, donc un son qu'on va chercher ailleurs. Moi, j'ai toujours été fasciné par les grillons, le son des grillons, parce que c'est un son qui est assez proche des sons synthétiques. D'ailleurs, il y a plein de chants d'insectes qui ont des sons très proches de l'électronique, qui ont des fréquences qui sont très proches. Il y a des compilations comme ça qui s'appellent Electronic Frogs, Electronic Insects. Vous entendez ces sons, au début vous croyez que c'est un vieux synthétiseur qui fait tous ces sons là, non, ce sont des chorales de grenouilles ou des chorales d'insectes. Et je suis assez fasciné par la musicalité de la nature aussi, donc voilà, quand on fait rentrer ces sons de la nature, c'est ce qu'on fait souvent avec notre duo Radio Mental. Mm-hmm. Tout d'un coup, c'est quand la nature revêt cet aspect musical, je trouve ça assez beau, et de le réintégrer dans de la musique, c'est sans doute les plus beaux samples que j'ai pu entendre. Il y a des oiseaux chanteurs, hein, qui sont magnifiques, hein, des oiseaux australiens. Et j'utilise un peu tous ces sons de la nature sous forme de samples dans des créations sonores.
Certes les sons de la nature, mais ceux des machines aussi. Je suis tombée sur les machines parlantes qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup plu parce que, en fait, il y a quelque chose de très immersif. Tous les sons d'ascenseur, de métro, d'iPhone, le mail, le texto, c'est des sons qu'on connaît en plus, donc auxquels finalement c'est très facile de s'identifier, de reconnaître en tout cas. Et petit à petit, on se retrouve dans un peu de la science-fiction, si on veut. Et en tout cas, ce qui m'a marqué, moi, c'est que ce sont toujours des voix de machines qui nous donnent des ordres.
Bah, c'était ça, c'est une création radiophonique. C'est à mi-chemin entre le documentaire, le mix de DJ et puis la création radio. Bah, l'idée, c'était effectivement de s'intéresser à la manière dont les machines nous parlent. Alors, ça peut être autant le bip d'un four à micro-ondes que des voix de synthèse qu'on entend parfois au téléphone quand on vous appelle. Ce sont des voix de synthèse qui sont faites à partir de l'humain, mais qui on peut faire écrire des phrases comme ça. C'est un petit peu comme la voix à la SNCF. Voilà, c'est toutes les syllabes, les mots ont été enregistrés, et puis on peut faire dire à ces voix de synthèse tout ce qu'on veut. Et donc je m'intéressais effectivement à tous ces sons qui peuplent notre environnement, à la fois notre environnement quotidien, hein, donc effectivement le photomaton qui vous donne des ordres, que les simples bips que l'on a partout, que pour nous signaler l'arrivée d'un texto, ce genre de choses. Et puis m'intéresser aussi aux voix des machines dans la science-fiction, dans le cinéma, dans notre imaginaire, parce que peu à peu on tend toujours vers l'imaginaire, la science-fiction, c'est-à-dire que la réalité rattrape la science-fiction de manière parfois très 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 tardive, mais bah, ces machines ce sont à la fois des robots, mais c'est aussi des androïdes, des humanoïdes, enfin, que ce soit R2-D2 ou dans Blade Runner ou dans 2001 Odyssée de l'espace, c'est la voix la plus connue de cette histoire de la science-fiction. Ces ordinateurs, ces machines, ces robots, ces androïdes, ces cyborgs, ils ont aussi des voix. Et je me suis mis à l'écoute de toutes ces voix, voilà, au cinéma et puis dans notre réalité pour essayer de les harmoniser ou tout simplement de créer une sorte de voyage comme ça, mental, imaginaire, dans ce nuage de sons et de voix des machines qui nous entourent aujourd'hui.
Votre destination, votre nationalité, ainsi que vos noms et prénoms. Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
Dégagez votre visage. Prenez la cabine 17, je vous prie.
Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Bye.
Et gardez les yeux ouverts et visibles. Attention, une seule personne doit apparaître. Vous êtes prêts? Attention. Vous êtes prêts? Attention.
L'identification vocale est terminée, vous êtes en règle.
Ça ressemblait à quoi le monde à votre avis sans tous ces sons? Ça peut être une approche ou en tout cas une expérience du réel tout à fait différente parce qu'on en est quand même bien entouré.
Ça c'est des questions, vous faites bien de me poser la question parce que c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. C'est après la musique, moi je connais bien l'histoire de la musique électronique ou autre, et au bout d'un moment on s'intéresse à d'autres choses. J'ai beaucoup de gens de ma génération qui d'un coup se sont portés vers les sons de l'environnement, de la nature, parce que pour eux c'était comme une sorte de nouvelle frontière ou une forme de redécouverte. Et on s'intéresse au son d'un vieux synthétiseur, mais aussi tout simplement à la manière dont on pourrait harmoniser notre vie urbaine, ou comment on pourrait adoucir, redessiner les sons qui nous entourent. Mais je pense que notre environnement, il va bientôt changer. Il va bientôt changer parce que, vous voyez, si vous avez bien écouté, les voitures, elles font de moins en moins de bruit. On va vers des voitures électriques. Bon, les deux roues font encore beaucoup de bruit aujourd'hui en ville. Ça résonne encore beaucoup. Mais on va connaître de nouvelles villes avec de nouveaux problèmes parce que quand les voitures ne font plus de bruit, ce sera peut-être les gens qui feront du bruit. Mais je pense qu'on va vers une ville plus humaine d'un point de vue sonore. Alors peut-être qu'il y aura plus de signaux publicitaires, je ne sais pas, plus de sons, mais on entendra mieux les voix, on entendra peut-être mieux les oiseaux, on entendra mieux le vent. Je ne pense pas que ce soit une utopie, mais j'aimerais bien, de ma vie, connaître une ville sans ces moteurs, qui peuvent être assez beaux, hein, on en a bien utilisé dans la musique, mais qui écrasent le paysage sonore aujourd'hui. Alors après, l'autre grande question, c'est les souffleries et tous les l'air climatisé de tous ces immeubles qui fait aussi un bruit parfois encore plus puissant. On finit par l'oublier, mais ça écrase beaucoup les perspectives sonores. Mais je pense qu'il est permis de rêver à un monde un peu plus harmonieux d'un point de vue sonore grâce à l'évolution des technologies qui sont des technologies relativement silencieuses, qui sont celles du numérique.
Vous aimez le silence, Jean-Yves Leloup ?
Le vrai silence, vous savez, il n'existe pas vraiment. Oui, j'aime le silence. Enfin, j'aime écouter. J'aime écouter les sons qui s'apparentent au silence. Un de mes plus beaux souvenirs récemment, c'est dans l'Aveyron. Ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'il y a des hauts plateaux. Enfin, il y a des sortes de plateaux. Et lorsque on ne connaît pas vraiment ça ici en Savoie, parce qu'en Savoie, il y a toujours une réverbération entre les collines et les montagnes. Donc, une voiture qui passe à plusieurs kilomètres, on peut l'entendre de l'autre côté du versant. Mais quand vous êtes sur un plateau, vous avez une pureté du son. Si vous n'avez pas trop d'avions, et en Aveyron, il n'y a pas trop de passages de lignes aériennes. Il y en a quelques-unes, mais pas trop. Vous avez une pureté du silence qui n'est pas un vrai silence, puisqu'il y a toujours un insecte au loin, ou quelque chose, un brin de vent. Mais tout d'un coup, c'est un vrai luxe de pouvoir accéder à un son à l'état pur. C'est pas le silence. Mais quand on est débarrassé des voitures, des systèmes de réfrigération, de climatisation et des lignes aériennes qui font beaucoup de bruit, tout d'un coup, ça peut devenir c'est un vrai luxe, c'est une vraie redécouverte du son. Et ça, beaucoup de musiciens, ces dernières années, ont redécouvert la puissance poétique des sons de la nature et s'en servent dans leur création. Ou certains se sont plongés aussi dans ce qu'on appelle le field recording, donc l'enregistrement des sons de l'environnement, de la nature, pour démontrer leur caractère poétique et parfois musical.
Pour revenir à quelque chose que vous avez écrit, plutôt une question que vous posez, est-ce qu'un bon sample vaut-il mieux qu'un bon discours ? Alors
ça, c'est le titre d'un article où j'ai parlé, c'était dans la revue politique Charles, sur comment les musiciens utilisent les fragments des discours politiques. Dans toute l'histoire de la musique, alors c'est le rock, la techno, le rap, bien sûr, la musique noire américaine en général, on a souvent utilisé des fragments de discours. Alors ça peut être autant Zebda qui utilisait un discours de Chirac que Public Enemy avec Malcolm X, ou des gens de la techno avec Martin Luther King, ou des musiciens pop français avec Villepin à l'ONU, par exemple, ce genre de choses.
Et aujourd'hui, des artistes comme, je sais pas si vous voyez Chassol, Christophe,
oui,
Chassol,
oui, oui,
qui lui harmonise les discours.
Hello, New York! No, thank you, because I am here tonight, not just because I need your help. I'm here because your country needs your help. You know, there was a reason why so many of you got involved in the campaign in 2008. Worked your hearts out. And it wasn't because you thought it was going to be easy. When you decide to support somebody named Barack Hussein Obama for president, you're not doing it because you think it's a cakewalk.
Oui, il a travaillé sur un discours d'Obama, c'est très très beau. Il a retravaillé avec, en faisant des accords sur la voix d'Obama, c'est très très beau. Tout d'un coup, ça fait ressortir la musicalité de la voix de certains personnages. Et ça, cette vidéo d'Obama, vous pouvez la voir sur Internet facilement, c'est très très beau. Alors, je ne peux pas répondre sur un bon son vaut-il mieux qu'un bon discours. Un bon son vaut mieux qu'un bon discours, mais c'est cette manière aussi qu'ont eu les musiciens de l'ère technologique, on va dire, hein, qu'ils soient rap ou house ou techno, de pouvoir parler de leur époque aussi à travers le sample. Souvent on dit que la techno, la house, est une musique pas très concernée par le réel, par la politique, par ce genre de choses. Mais avec ce type de sampling, et là je parlais de la musique électronique en général, en faisant intervenir des discours, il y avait un fameux morceau de techno avec des samples de Margaret Thatcher aussi qui était très drôle. En fabriquant ce discours, en le déconstruisant, en le faisant intervenir, ça, et puis des sons des médias, de la télé, de la radio, ce qui se faisait beaucoup dans les années 80, c'était une manière de parler de la société. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui peut-être que la musique électronique est assez apolitique dans son contenu, mais par contre le fait d'investir des lieux, de faire qu'une génération se rassemble, c'est une musique aussi qui est politique en soi, mais pas par les messages qu'elle transmet dans ses morceaux.
Est-ce qu'elle est aussi, on peut dire, peut-être une sorte de résistance selon les contextes ?
La musique électronique aujourd'hui c'est très vaste, hein. Vous savez, c'est autant David Guetta que la techno hyper underground, donc c'est très difficile de faire des généralités. Je ne sais pas si c'est une forme de résistance, c'est plutôt une forme de communion, moi je dirais. Je pense pas que les gens se sentent rebelles en soi, mais plutôt ressentent le besoin de se rassembler, comme depuis toujours, autour d'une musique, alors elle peut être différente des autres. Donc ça peut être une manière de résister à la commercialisation outrancière de la dance music et de la culture DJ, hein, qui est quand même très présent. Alors je sais pas si on peut. Je pense pas que le terme de résistance soit le mot le plus principal. C'est pour moi une manière d'exister, de communier, de se rassembler. Et après, s'intéresser à une musique novatrice, c'est une forme de résistance. Mais après, est-ce que la techno, l'électro aujourd'hui est une musique novatrice? Elle a une longue histoire aujourd'hui. Je sais pas si elle est vraiment novatrice. En tout cas, elle sonne de manière très nouvelle et novatrice aux jeunes générations qui l'écoutent.
Est-ce qu'elle invente encore aujourd'hui, à votre avis?
En ce moment, on peut pas dire qu'elle invente énormément de nouvelles formes musicales, surtout en ce moment où il y a un retour à la techno et la house assez traditionnelle. Il y a des musiciens, novateurs, enfin qui ont une identité très particulière. Je sais pas si on prend Nicolas Jarre, par exemple, voilà quelqu'un qui fait des morceaux parfois très arides et d'autres beaucoup plus accessibles, mais avec une identité très particulière et qui arrive à inventer des choses très personnelles mais qui ne sont pas partagées par tout un courant. Donc aujourd'hui on vit pas une époque d'invention dans le contenu de la musique. Par contre on vit une époque d'invention dans les outils, dans les technologies, dans les instruments. Et donc on peut imaginer qu'il y aurait des nouvelles formes musicales et sonores qui vont bientôt émerger. Sinon on vit une époque aussi d'innovation plutôt dans les shows, enfin les spectacles audiovisuels, hein. Il y a des nouveaux rapports, enfin des rapports entre l'image et la musique, parfois très spectaculaires et pas très intéressants, et parfois beaucoup plus artistiques, plus novateurs. Mais ça existe depuis une dizaine d'années déjà, et la France et les artistes français sont assez en pointe là-dedans. Donc on invente plus de choses dans le spectacle en quelque sorte, ou dans la scénographie, dans la lumière, dans le maniement de l'image, autour de la musique.
Le monde
est fort. I got a
habit de ta peau neuve et des turbans de rêve noir, le feu teinte dans les cloches, douce est la parole de l'eau, sous la clé des nuits légères, enchaînée au cœur des filles. Le feu lèche les miroirs, les museaux.
Dans ce autour de la musique que nous sommes en train d'évoquer maintenant, vous avez peut-être assisté ou remarqué en tout cas ce grand retour, bien sûr, du vinyle, mais aussi de la cassette audio, la cassette que vous décrivez, en tout cas vous posez la question comme l'ancêtre du MP3. Déjà, je me demande en quoi. Et puis au-delà de ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce retour à la cassette, c'est genre une résistance au tout numérique ou est-ce que c'est une nostalgie, simplement ?
Alors, il y a plein de choses. Alors, bon, ancêtre du MP3, oui, parce que la cassette, elle a permis d'enregistrer, d'échanger, de fabriquer des playlists, des mixtapes, comme on disait, de les offrir, de se les échanger, de se fabriquer des playlists qu'on le fait aujourd'hui très rapidement sur un logiciel comme iTunes. Bon, à l'époque, c'était un peu plus laborieux. Mais il y a une forme d'appropriation. Les gens dessinaient leurs propres jaquettes des cassettes. Il y avait tout un système d'échange. Donc un système d'appropriation de la musique par les auditeurs et les consommateurs. Ce qui est un peu le cas du MP3 qui voyage très facilement. On peut s'envoyer un MP3 par email. On peut fabriquer des playlists. On peut, c'est une forme de liberté. Donc et puis ce sont deux formats portables nomades. La cassette a permis le développement à la fois de l'autoradio, du Ghetto Blaster ou Boombox et puis bien sûr du Walkman. Et puis le MP3, de l'iPod, puis du smartphone. Et puis on peut mettre ça sur une clé USB, brancher sur un autoradio. Enfin voilà, c'est de la musique nomade et portable. Donc ça, c'est effectivement, il y a une vraie relation entre les deux. Après, nostalgie, fétichisme peut-être. Disons que à l'époque du tout numérique, avec cette forme de dématérialisation, à part l'écran, c'est le seul élément matériel qu'on a, c'est cet écran et puis ces listes qu'on a devant soi, c'est possible que des générations plus jeunes aient envie de posséder quelque chose, et puis ce sont des beaux objets, enfin le vinyle est un bel objet, la jaquette du vinyle est un bel objet, la cassette est un très bel objet en termes de design aussi, il y a une vraie poésie, donc il y a une beauté dans l'objet. On peut appeler ça nostalgie, mais simplement aussi une appréciation de la beauté. Et puis, il y a une qualité sonore qui est différente. Moi, je suis pas un fan ni de cassette, ni de vinyle, ni de CD, ni d'autres. Moi, vous savez, la musique, c'est le contenu qui m'intéresse. Après, le format, ça m'intéresse pas du tout. Mais ce sont des objets qui incarnent la musique. On a sans doute besoin d'objets matériels qui incarnent ce qu'on écoute, qui est quand même très, très abstrait, en quelque sorte. Aujourd'hui, avec le streaming, on a accès à des millions de morceaux. Et le fait de pouvoir posséder des objets qui incarnent cette musique, c'est sans doute important. C'est un peu comme des fétiches. Si on revient aux origines, si vous posiez la question à l'anthropologue, peut-être qu'il aurait des réponses là-dessus sur cet aspect fétichiste, mais au sens ancien du terme. Comment on accorde une sorte d'une âme à des objets.
Un caractère presque sacré, en fait.
Ouais, ouais. Sacré ou un objet qui a une âme. Une âme, peut-être pas une âme divine, hein, pas du tout, mais qui recèle en soi quelque chose. Et puis, après, il y a toujours, une excitation de ces objets qui avaient un peu disparu. Moi, c'est vrai que le Walkman, je trouve ça beau. Les Ghetto Blaster, les Boombox aussi, c'est quand même des beaux objets en termes de design. Et il y a aussi une fascination esthétique, matérielle, fétichiste. Et nostalgie, je sais pas si on peut. La nostalgie, c'est la douleur de l'éloignement, au sens propre du terme. Simplement, c'est plutôt un intérêt aussi pour l'histoire, je crois, pour l'histoire des idées, des formats, des objets. Donc, moi, je ferai jamais cette critique vis-à-vis des jeunes générations qui s'intéressent au vinyle ou à la cassette. Mais c'est vrai que moi, au fond, posséder ces objets, ça m'intéresse peu. J'en ai eu beaucoup, ça a pris beaucoup de place. Le fait de les avoir connus, de les avoir écoutés, de les avoir aimés, en fait, ça me suffit. Thank you.
Et on peut l'entendre en tout cas quand on écoute Radio Mental. C'est quoi l'actu de Radio Mental? Qu'est-ce que vous bricolez en ce moment?
Oh, ce moment, il n'y a pas beaucoup d'actu, parce qu'on a travaillé ensemble pendant plus d'une vingtaine d'années. Éric Pageot, avec qui je travaille, lui, a lancé un label qui s'appelle Irradiant Hologram, qui est un label un peu électro et pop. Et puis, donc là, on n'a pas de projet... On a toujours quelques ciné-concerts, Cinémix qui tournent, effectivement, où on a joué des bandes-sons sur des films. La prochaine date, c'est à Lyon, au Marché Gare, dans quelques semaines. J'ai pas la date en tête.
C'est quoi le film que vous avez préféré habiller ?
Il y a un film qui est pas très connu, qui s'appelle Koyaanisqatsi, qui est un film des années 80.
Oui ?
Oui. Voilà, dont on a refait toute la bande-son, assez techno, assez électronique. Là, c'est très excitant à faire. C'est un film un peu une sorte d'opéra visuel, en quelque sorte, qui décrit l'état du monde et les problèmes à la fois écologiques, industriels, humanitaires de la société des années 80, mais qui ressemble très fort à celle d'aujourd'hui. Donc c'est un film qui avait été mis en musique par Philippe Glass. Et puis nous, on a essayé d'en proposer juste une autre lecture très électronique. Là, c'est vraiment un travail de mix, mais aussi de dialogue avec l'image. C'était un ciné-mix, pas ciné-concert, c'est un ciné-mix, on appelait ça comme ça, qui a beaucoup tourné et qu'on a beaucoup joué et que j'ai toujours beaucoup de plaisir à jouer.
Bon, eh ben merci beaucoup, Jean-Yves Leloup, d'être venu nous rendre visite sur les ondes de Radio et les Bords. Quelques petites infos, chers auditeurs, que vous pourrez retrouver donc sur le site internet de votre radio préférée, le SoundCloud de Radio Mental, et puis le site des éditions Le Mot et le Reste, sur lequel vous pourrez retrouver deux livres très passionnants, Digital Magma de l'Utopie des Rave Party à
la génération MP3.
Merci. Et Musique Non-Stop, qui est sortie en 2015, septembre 2015, une compilation d'articles tout à fait passionnants et très intéressants sur ces mutations de la musique dont on a parlé ici. Merci beaucoup d'être à l'écoute de Radio et les Bords. La fréquence sensible vous embrasse bien fort. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup Jean-Yves Leloup, encore d'être venu.
Merci à tous.